qui bénit ses enfants, aussi bien Jacob qu'Ésaü, les deux ont été bénis. Mais il y en a un qui a marché dans la crainte de Dieu, malgré qu'il était retors de nature. Jacob avait trompé, mais Dieu a agi dans sa vie. Et comment est-ce qu'il a été changé, ce Jacob? Eh bien, il a été changé parce qu'il a rencontré personnellement le Seigneur. Et vous avez ce récit dans le chapitre 32 de la Genèse, où, alors qu'il est craintif et qu'il va à la rencontre de son frère Ésaü après 20 ans de séparation, et qu'il savait qu'Ésaü voulait le tuer, il a peur, mais il rencontre le Seigneur, il ne sait pas encore que c'est le Seigneur, et il lutte avec lui. Puis, sa hanche étant luxée, alors qu'il luttait avec Dieu, et il ne savait pas que c'était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob, quand sa hanche a été luxée? Il était vaincu, hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché. Et c'est cela qu'il vous faut. La foi, elle s'accroche à Dieu. Et puis, il lui dit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. C'est ça la foi. Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Je crois ce que tu m'as dit un jour, quand j'étais en fuite et que j'ai eu cette vision de l'échelle où les anges montaient et descendaient. Et Jacob nous enseigne au sujet de la foi qu'on peut arriver à la fin de sa course dans l'adoration. Quand il était mourant, Jacob a adoré Dieu appuyé sur le bout de son bâton, nous dit l'Écriture. Jacob adora appuyé sur le bout de son bâton. Eh bien, que nous ayons une vie semblable à celle de Jacob. Et Jacob, lui, il aimait à parler de Dieu comme étant son berger. Est-ce que vous avez déjà éprouvé cela? Que votre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu de la foi, Dieu d'Isaac, Dieu du sacrifice aussi, Dieu de Jacob, c'est le berger qui vous ramène toujours dans le vrai chemin. Voilà ce qu'est une vie de foi. Et alors, ce Jacob, il a enseigné qui, alors qu'il était devenu veuf? Joseph. Et il l'a enseigné de telle manière que Joseph était un enfant obéissant et qui aimait l'enseignement de son père et qui a obéi à 17 ans alors que ses frères le jalousaient. Il a obéi à son père pour aller prendre de leurs nouvelles. Puis qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Il a eu toutes les misères possibles, une succession d'épreuves. Mais l'Écriture nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Relisez la vie de Joseph et vous verrez ce que c'est que la vie de la foi. Joseph est vendu, il pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu me permet une chose pareille? Vendu comme esclave en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il va reconnaître? Il va reconnaître que ce n'est pas ses frères qui l'ont vendu, mais que c'est Dieu qui a permis la chose. En vue de quoi? En vue de sauver ses frères ennemis, son père, toute sa famille. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Quand on accepte la volonté de Dieu, on est un élément de bénédiction. Et il fait ces expériences-là, il est vendu à un bon maître, ce bon maître met sa confiance en lui, mais voilà, qu'est-ce qu'il arrive ? La femme du maître regarde Joseph, elle le trouve beau, puis qu'est-ce qu'elle lui demande ? Ce que tout le monde demande. Vous me couchez avec un bel homme ? Un jeune. Elle lui dit tout simplement, couche avec moi. Voilà l'écriture. C'est moderne, hein ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse. Parce qu'il honore son maître. Et puis, elle attend l'occasion favorable. Un jour que Joseph doit aller dans cette maison et qu'il est seul, eh bien, elle lui fait de nouveau la proposition, puis elle va plus loin. Elle le prend. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse sa robe, puis s'en va. Et qu'est-ce que la femme va faire ? Puisqu'elle n'est pas satisfaite, elle va prendre cette robe et montrer la preuve qu'il a voulu coucher avec elle. Hein? Et le maître va croire sa femme. Et qu'est-ce qui arrivera ? Joseph est en prison. Alors on est complètement dérouté. Mais c'est ça la vie de la foi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Dieu n'a pas dit que vous seriez toujours délivrés sur l'heure. Mais si vous savez attendre, si vous avez une vie de foi, vous croyez que même dans la prison, le Seigneur opérera. Et voilà qu'il est maintenant le gardien dans la prison. Il est emprisonné, mais c'est lui qui doit rendre compte au sujet de ses prisonniers. Et là, le Seigneur le façonne, le forme, de sorte que quand il a 30 ans, il a été vendu à quel âge ? À 17 ans. Et 13 ans après, quand il a 30 ans, on vient le chercher dans la prison pour le conduire à qui ? Au Pharaon, afin qu'il puisse expliquer son rêve. Mais il fallait que Joseph passe par cette tribulation pour être prêt pour gouverner l'Égypte. Voilà ce que c'est qu'une vie de foi. Il n'a pas douté et finalement il est devenu une bénédiction pour sa famille et il peut dire à ses frères après la mort de son père, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, mais c'est Dieu. Alors voilà, je vous laisse avec cela au sujet de ce que l'on peut trouver dans la vie de ces hommes qui nous parlent de foi. Et Joseph, lui aussi, a une vision à son 10 ans. Il demande qu'on mette ses os en terre d'Israël. Et est-ce qu'on l'a fait ? Oui, n'est-ce pas ? Alors, donc, toute la Bible nous parle de l'accomplissement de cette attente de la foi. Dieu notre Père, encore une fois, nous voulons te bénir de nous enseigner par ta parole et ce que nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes, que tu le rappelles à nos bien-aimés et que de cette rencontre, il demeure des fruits pour toi dans notre vie quotidienne, jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Alors, vous allez maintenant avec la page 8. Ce samedi après-midi, puis, si vous êtes d'accord, nous allons procéder d'une façon un peu différente. Je vais d'abord vous faire l'exposé, et ensuite vous, si vous avez des choses à ajouter, que vous avez vu dans vos ateliers, vous aurez la parole. Mais puisque c'est enregistré, on va d'abord faire l'exposé. Et puis après, vous nous direz ce que vous avez vu dans vous appuyer. Et vous ouvrez vos Bibles au chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux, et nous allons relire. Vous suivez dans vos Bibles, je crois que vous avez surtout second, hein? Oui. Je m'excuse si j'ai lu quelquefois dans Darby, si j'ai lu aussi dans la Colombe, j'ai pris second pour que vous puissiez mieux suivre. Chapitre 11. Nous en étions à Moïse. Hein? On lit depuis le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors évidemment, quand vous lisez un verset comme cela, Moïse devenu grand, et que vous ne savez rien au sujet de Moïse, vous voudriez savoir ce qu'il faisait quand il était petit. Hein? Vous comprenez la lecture de la Bible? Pourquoi un verset vous amène à chercher un autre passage? Comprenez-vous? Alors, où allons-nous trouver l'histoire de Moïse? Je ne l'ai pas noté là, mais à vous de savoir. Dans l'Exode, n'est-ce pas? La Genèse hein, nous a parlé de plusieurs hommes, jusqu'à Joseph. Le dernier chapitre de la Genèse finit par un cercueil en Égypte. Qui est dans le cercueil? Joseph. C'est la mort de Joseph. Un cercueil en Égypte. Voilà comment finit la Genèse. Puis commence l'Exode. Alors là, vous avez l'histoire de Moïse, de sa naissance, de la façon dont ses parents l'ont caché. Vous voyez qu'il y avait déjà des difficultés pour eux. Eh bien, voilà comment vous devez lire. C'est par la foi que Moïse, devenu grand. Mais qui est-ce qui a d'abord manifesté de la foi pour Moïse? Ses parents. Vous comprenez? Alors, ça nous touche. Les parents ont vu en cet enfant, ils ont vu qu'il était beau pour qui? Pour eux? Non, pour Dieu. Il était beau pour Dieu. Oh, mes amis, si dans les familles, les parents, regardant leur enfant, se disaient, il est beau pour Dieu. Comment l'élèverait-il? Pour Dieu. Et il voudrait que cet enfant voie tout près d'eux, de lui, les sentiments de Dieu dans la mère et dans le père. Mais s'il y a la bagarre dans la famille, comment voulez-vous que l'enfant puisse être impressionné quand on lui parlera de Dieu? Ce qu'il voit chez ses parents, c'est ce qu'il peut comprendre de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour longtemps, non, pour un temps, la jouissance du péché. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas de jouissance dans le péché, mais cette jouissance, elle n'est que pour un temps. Il regarda l'opprobre de Christ. Et alors, quand vous lisez cette expression, l'opprobre de Christ, où pouvez-vous trouver l'opprobre de Christ? Dans quelle partie de la Bible vous trouvez l'opprobre de Christ? Dans les évangiles d'abord, hein, et dans la passion que le Seigneur a eue, mais aussi dans les psaumes. Beaucoup de psaumes nous parlent des souffrances du Christ, Et dans quel prophète en particulier? Le prophète Ésaïe, comprenez-vous? Alors, vous voyez, un verset vous conduit dans bien des parties de l'Écriture. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il est question d'une récompense un jour. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors, au fond, la foi, c'est ce sens qui voit l'invisible. Il voyait l'invisible. Et je demande à Dieu qu'il vous soit donné, à moi toujours plus aussi, de voir l'invisible. Nous n'avons pas à regarder aux choses visibles, mais aux invisibles. Mais ces choses invisibles nous sont révélées par la parole. Verset 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et puis l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Vous voyez que là, ça vous rappelle quoi? C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang. Qui est-ce qui avait compris en premier? C'était Abel. Vous comprenez? Vous voyez comme tout se lit. C'est Abel qui avait compris que pour être sauvé, il ne pouvait pas apporter ce qu'il avait fait, ses œuvres. Il était pécheur, il n'y avait rien de bon pour lui, mais il a apporté un agneau de son troupeau. Il a donné à sa place l'agneau. Parce qu'il méritait la mort, mais il avait compris que Dieu acceptait une victime à sa place. Mais cette victime représentait qui ? Lui-même, n'est-ce pas? Il était identifié à la victime. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Vous entrez dans la mer Rouge et vous pensez être sec. Hein? Ça, c'est la foi. Il faut la foi pour faire une chose comme ça. Mais qui est-ce qui avait dit qu'il fallait traverser la mer Rouge? C'était Dieu, donc il le croyait. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme en un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Ce n'était pas pour les Égyptiens à traverser la mer Rouge. Si vous voulez y aller, de vous-même, vous êtes engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Mais vous êtes toujours en pleine contradiction. Vous voyez une ville fortifiée, hein, des hautes murailles. Et puis, comment est-ce qu'elles sont tombées? Après une grande attaque? Non, les Israélites ont fait le tour de la ville. Combien de fois? 7 fois. Et puis ils se sont mis à crier, et puis les murailles sont tombées. Le 7e jour. Mais quand le premier jour, rien ne s'est passé, il faut la foi, hein. Le 2e jour, rien ne se passe, ils retournent au camp. Le 3e jour, rien ne se passe. Le 4e jour, rien ne se passe. Le 5e jour, rien ne se passe. Le 6e jour, rien ne se passe. Alors on arrête. C'est comme Naaman le Syrien. Qu'est-ce qu'Élisée lui avait dit pour sa lèpre? Va et jette-toi, combien de fois? 7 fois dans le Jourdain. J'ai souvent pensé que les hommes qui étaient avec lui, quand ils ne voulaient pas d'abord se tremper dans le Jourdain, et puis il est allé une fois, il en sort, rien. Une deuxième fois, il en sort, rien. Une troisième fois, il en sort. Il doit se dire, il se paye de ma tête, ce prophète. Hein. Et je pense bien qu'il y a eu là de ses serviteurs qui lui ont dit, mais il a dit cette fois. Il faut aller jusqu'au bout. Ce que je vous dis, c'est le dernier quart d'heure. Hein. Il faut aller jusqu'au bout. Mais vous pouvez être sûr que le Seigneur interviendra et qu'il l'accomplira. Alors nous demandons à Dieu la patience, nous demandons à Dieu la force. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait pendant 7 jours le tour. C'est par la foi que Rahab, et vous connaissez un peu la vie de Rahab, moi c'est une femme qui m'impressionne beaucoup. Vous me direz alors, vous êtes impressionné par une prostituée? Et oui. Parce qu'il y a des prostituées qui peuvent aussi nous enseigner. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Mais on voudrait un peu en savoir plus sur cette Rahab. Hein. Alors, on va chercher où? Dans Josué. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Que cette femme avait une maison qu'on appellerait de débauche, hein, plus ou moins. Enfin, une maison de prostitution. Alors, on est un peu étonné. Et puis, si vous lisez davantage l'Écriture, vous arrivez dans le Nouveau Testament, où trouvez-vous Rahab, la prostituée? Dans la généalogie du Seigneur. Alors c'est extraordinaire, mais c'est cela le sauveur des pécheurs. Il change une vie complètement. On peut avoir été une prostituée, on peut avoir été un meurtrier. L'apôtre qui a annoncé l'évangile à l'Europe, qu'est-ce qu'il avait fait avant? Il était un meurtrier. Il avait consenti ce Saul de Tarse à la lapidation d'Étienne. Il avait vu mourir Étienne. Et il a dit qu'il consentait à sa mort et même qu'il gardait les habits de ceux qui, pour être plus à l'aise pour jeter des pierres, avaient déposé leurs habits aux pieds de Saul de Tarse. Mais miséricorde lui a été faite. Alors, vous voyez, le climat de la foi. Rahab avait reçu les espions avec bienveillance. Mais quand vous lisez le chapitre 2 de Josué, vous apprenez que la police de Jéricho a su qu'il y avait 2 Israélites qui étaient entrés chez Rahab. Puis ils ont envoyé la police. Puis qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle les a cachés. Mais non seulement elle les a cachés sous des tiges de lin sur le toit, mais qu'est-ce qu'elle a dit à ces hommes? Qu'ils étaient partis. Alors on dit, elle s'en est tirée par un mensonge. Alors, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons mentir, puisqu'il y en a. Il y a des mensonges dans la Bible. Est-ce que vous allez lire la Bible de cette façon-là? Est-ce que c'est parce qu'elle a menti qu'elle a été sauvée? Est-ce qu'on peut être sauvé par un mensonge? Jamais. Mais mettez-vous à la place de cette femme qui vit parmi les païens, où le mensonge est constant. Alors, elle est prise de court, et puis elle leur dit, allez, ils sont partis, mais ce n'est pas à cause de cela qu'elle a été sauvée. C'est parce qu'elle a eu à cœur de les préserver de la mort. Mais pour quelle raison? Alors là, vous lisez dans ce chapitre de qu'elle savait ce qui s'était passé en Égypte et qu'elle avait entendu parler de la traversée de la mer Rouge et de ce trajet dans le désert, et elle avait été amenée à confesser que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. Qu'elle ait eu des lacunes, comme on a vu Sarah en a eu, hein, des doutes, eh bien, Rahab a aussi eu des lacunes, mais ce n'est pas à cause de ces lacunes qu'elle a été sauvée. Dieu est un Dieu de bonté et qui comprend. Mais ne justifiez jamais le mensonge dans votre vie. Vous êtes maintenant, vous avez la connaissance du vrai Dieu et vous ne vous en tirerez jamais par un mensonge. Parce que tous les menteurs, finalement, ils sont où dans l'Écriture? Dans l'étang de feu et de soufre. Alors nous bannissons le mensonge et élevez vos enfants avec l'horreur du mensonge. Je dois dire, j'ai eu 5 enfants, j'ai 15 petits-enfants, bientôt 9 arrière-petits-enfants, mais j'ai été sévère surtout sur la question du mensonge. Parce qu'alors, le mensonge, ça ruine nos relations. Puis on risque d'être injuste après. Il vaut mieux que nos enfants puissent tout nous dire, mais jamais mentir. Alors, on revient à notre texte. On en était où?
32.
Hein. Que dirais-je? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Alors, qui c'est ce Gédéon? Ça vous amène où? Dans le livre des Juges. Je ne dis pas que vous devez lire ce soir tout le livre des Juges, mais si vous voulez savoir quelque chose sur Gédéon, vous allez dans les Juges. De Barak, c'est où? C'est dans les chapitres avant Gédéon. C'est encore dans les Juges. Et vous apprendrez qui est Barak. Barak, qui ne voulait pas prendre la direction d'Israël et qui a demandé à qui? À une femme. Quelquefois un homme a besoin d'une femme pour être encouragé et le conduire. Puis maintenant de Samson. Oh, Samson, vous le connaissez, hein? Ou vous connaissez en tout cas sa maîtresse de nom. Comment s'appelait-elle? Delila, hein? Et puis, Jephté, qu'est-ce que vous savez de Jephté?
Vous savez que c'était la première personne qui est allée.
Il a fait un vœu qu'on appelle imprudent. Il a dit à Dieu, et c'est ça qu'il faut aussi faire très attention parce que Dieu nous prend au mot. Il a dit à Dieu, si je gagne cette bataille, quand je reviendrai à la maison, la première personne qui sortira, je l'offrirai en sacrifice. Hein? Puis ce n'était pas une truie qui est sortie de la maison. C'est ça, si ça avait été une truie, un cochon, ben, on pouvait le sacrifier. Non, il n'avait pas le droit de sortir. Il faisait fausse route sur toute la ligne. Mais on pense que le sacrifice le plus excellent, ben, ce serait l'animal le plus proche de l'homme. Mais c'était sa fille. Alors, c'est pas Dieu qui a voulu ça. Mais n'empêche pas. Alors veillons sur nos paroles. Regardez aussi Jacob, pour vous montrer que tout se tient dans l'Écriture. Jacob n'a pas su qu'en fuyant son beau-père Laban, une de ses femmes, celle qu'il aimait, c'était qui? Rachel, avait volé les téraphines de son père, des petites idoles. Elle les avait pris, mais Jacob ne savait pas. Alors Laban poursuit Jacob, mais Dieu parle à Laban en chemin et lui dit, tu ne feras aucun mal à Jacob. Vous voyez que Dieu empêche certaines choses, oui. Mais il arrive là-bas, Jacob, Laban, et puis il accuse Jacob d'y avoir. Vous êtes parti sans me dire au revoir, mais tu ne m'as pas même laissé embrasser mes filles. Mais voilà, vous me l'avez encore volé, mes téraphins, ces petites idoles dans lesquelles il se confiait. Il faut Dieu. Et Jacob, qui ne sait pas que c'est sa femme qui a fait ça, qui restait un peu idolâtre, et dit, tu peux aller partout, et là où tu trouveras ces téraphins, la personne qui les a pris, elle mourra. Hein? Mais il ne savait pas que Rachel les avait cachés sous le bas de son âne. Puis le père de Rachel est allé partout, il est arrivé dans la tente de sa fille, de Rachel, puis elle avait trouvé une bonne combine pour tromper son père. Elle avait caché ça sous le bas de chameau, puis elle s'était assise dessus. Puis elle lui dit, père, excuse-moi, j'ai ce que les femmes ont l'habitude d'avoir, qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait ses périodes, prétendait-elle. Elle ne pouvait pas se lever, elle était malade, la migraine, je ne sais pas. Alors elle ne s'est pas levée. Alors le père n'a pas cherché sous le bas du chameau. Mais Jacob avait dit, la personne qui a pris cela, elle mourra. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont continué, le père Laban est parti, ils ont continué leur chemin. Mais qu'est-ce que vous apprenez quand vous lisez la Bible? Rachel était enceinte, et puis, arrivée près de Bethléem, à Ephrata, elle a accouché. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Elle est morte en accouchant de Benjamin. C'est quelque chose. Ça m'a toujours frappé. Dieu nous prend au mot. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous voyagez à travers toute l'écriture et puis ça vous donne toujours des leçons. On reprend. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David. Vous connaissez David? Dans quel livre est-ce que vous pouvez apprendre quelque chose de David? Dans 1 de Samuel, 1 de Chroniques. Et puis, il y a aussi les rois. Puis de Samuel, où trouvons-nous des renseignements sur Samuel? Dans le livre de Samuel. Mais chez tous ces personnages-là, on va voir des manquements et des prophètes. Alors les prophètes, ben vous les connaissez, il y a les grands et les petits prophètes qui par la foi, vous voyez que Dieu veut seulement souligner leur foi, pas leur manquement là, qui par la foi vainquirent des royaumes. Alors, vous voyez que c'est passionnant, on peut avoir beaucoup d'histoires dans l'écriture, exercèrent la justice. Qui est-ce qui a exercé la justice d'une façon assez admirable une fois?
Salomon.
Salomon, hein, oui, voilà. Obtinrent des promesses. Souvenez-vous de certaines personnes qui ont reçu des promesses. Fermèrent la gueule des lions. Qui, par exemple? Daniel, hein, qui a dormi toute une nuit avec des lions. éteignir la puissance du feu. Qui, par exemple? Les amis de Daniel, les trois jeunes Hébreux. Échappèrent au tranchant de l'épée, on peut en citer plusieurs. Guérir de leur maladie, à qui pensez-vous? À Ézéchias. Comprenez-vous? Vous voyez que dans un seul verset, vous pouvez trouver une foule de choses qui vous édifieront. Comment Ézéchias, qui était malade à la mort, s'est mis à pleurer tout d'un coup, il s'est tourné contre le mur, puis il a crié au Seigneur pour qu'il le guérisse. Et Ésaïe revient et lui dit, Dieu a entendu ta prière. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort à ce moment-là? Ézéchias ne voulait pas mourir à ce moment-là. Et jusque-là, si vous lisez dans l'Écriture, les actes d'Ézéchias étaient à la gloire de Dieu. S'il était mort là, c'était merveilleux. Mais lui ne voulait pas mourir. Puis Dieu lui fait dire, eh bien, puisque tu veux vivre, j'ajoute encore 15 années à tes jours. Oh ben oui, ça c'est quelque chose, avoir encore 15 ans à vivre. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ces 15 ans? Il a fait des bêtises. Et hélas, il y a eu tout un jugement sur le peuple. Il a voulu recevoir d'autres nations, puis il leur a montré toutes les richesses qu'il avait dans le temple. Et puis, Dieu lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Toutes ces richesses que tu as montrées, parce que ça le glorifiait, hein, les richesses d'Israël, cela ira où? À Babylone. Vous voyez? Il faut être conséquent. Ce n'était pas un acte de foi. Alors, on est enseigné. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Est-ce que vous en connaissez? Là? La veuve de Sarepta, par Élie, et puis oui, mais là, c'est encore l'Ancien Testament. Hein? Le fils de la Tsunamite. Hein? D'autres furent livrés au tourment. Donc, il y en a qui ont dû mourir aussi. Parce qu'il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et ils n'acceptèrent point la délivrance. Si vous reniez, vous aurez la délivrance. Mais ils n'ont pas accepté. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alors, ça veut dire qu'il y a combien de résurrections? Deux. Et j'espère bien que vous êtes convaincus qu'on a étudié les deux résurrections. Il y en a qui vous disent qu'il n'y en a qu'une. Que la résurrection, elle a lieu à la fin du monde. Hein. Eh bien non. Il y a la résurrection des justes qui a lieu quand? La première résurrection. À l'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ ressuscitent premièrement et nous les vivants qui demeurons, nous sommes enlevés avec eux. Et le reste des morts ne vécut pas jusqu'à la fin. Et à la fin, alors, il y a la seconde résurrection qui conduit ensuite à la seconde mort, qui est l'état éternel de perdition. Donc, voilà ce que l'on peut comprendre d'une meilleure résurrection. C'est la première résurrection. Une résurrection pour la vie. Et il y a la résurrection pour la mort. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés. Est-ce que vous en connaissez ? Étienne, oui, mais avant aussi, on en trouve. Ils furent sciés, ce que l'on sait, Ésaïe semble avoir été sciée par quel roi? Le fils d'Ézéchias. Manassé. Mais ce Manassé qui aurait fait scier Esaïe dans un tronc d'arbre s'est converti finalement. Torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Vous voyez, tous ces hommes ont eu un témoignage remarquable. Ils n'ont pas obtenu ce qui a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils n'ont pas vu les choses, mais ils les ont crues et ils sont morts sans voir l'accomplissement des choses auxquelles ils croyaient, mais elles sont pour eux dans cet avenir avec nous si nous sommes vivants au moment du retour du Seigneur. Alors, je reprends maintenant un peu ces versets que nous avons lus jusque-là. On revient au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand. Alors, nous allons dans Exode, au chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme, verset 1, une fille de Lévi, donc de la même tribu. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le fleuve. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dû faire cela? Il faut lire un peu le chapitre avant, verset 8 du premier chapitre. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Joseph dont nous vous avons parlé. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithon, de Ramsès, pour servir de magasin au Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les pharisiens, les égyptiens, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chiphra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. Elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors il y en a qui disent, mais elles ont menti. Elles ont dit que les femmes hébreues étaient plus fortes que les égyptiennes. Et c'est permis ainsi de mentir. Est-ce que vous admettez ça? Non. Elles ont pu avoir cette faiblesse de ne pas dire absolument la vérité, mais ce n'est pas à cause de cela que le Seigneur les a fait prospérer. Vous ne prospérerez jamais en employant le mensonge. C'est parce que vous avez la crainte de Dieu que vous serez bénis. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Alors le pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Alors voilà, un couple qui n'obéit pas. Mais où a-t-elle trouvé son inspiration, la mère de Moïse? De l'arche de Noé, comprenez-vous? Et elle a pris un coffret en se souvenant de l'arche de Noé, elle l'a enduit de bitume et de poids, comme Dieu avait dit à Noé de faire, parce que Noé, il a obéi dans sa foi à tous les ordres de Dieu. Dieu lui avait donné toutes les mesures, tout le plan de l'arche. Puis ensuite, verset 4, la mère envoie la sœur de l'enfant, une fille, donc qui n'était pas morte, elle se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arrivait. Voilà la foi de cette femme. La fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter l'enfant ?»« Va, lui répondit la fille du pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit, « Emporte cet enfant, allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. » C'est fantastique, hein, quand c'est Dieu qui répond. Il y a un bénéfice encore. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car elle l'avait retiré des eaux. Mais comme l'enfant a été élevé, donc avant 5 ans, parce que l'allaitement à ce moment-là durait en tout cas jusqu'à 5 ans, au moins un allaitement mixte. Qu'est-ce qu'elle a pu dire à l'enfant jusqu'à 5 ans? Elle a pu lui parler de Dieu et lui raconter l'histoire d'Abraham, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Est-ce que vous parlez à vos enfants quand ils sont petits? À 5 ans, c'est déjà terminé à peu près. Il faut enseigner avant qu'il ait 5 ans les choses spirituelles. Et vous pouvez croire que le Seigneur bénira ce qu'on apprend quand on est tout enfant. Et l'enfant ne doute pas de l'existence de Dieu. Alors, vous savez comment Moïse a été élevé, et il a étudié en Égypte, et verset 11 du chapitre 2 de l'Exode, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, on retrouve le chapitre 11 des Hébreux, car c'est par la foi que Moïse, devenu grand. Comprenez-vous? Il y a correspondance. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Verset 11 aussi du chapitre 2 de l'Exode. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Donc il savait quelle était son origine. Il était israélite. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien. Est-ce que c'est bien? Non. Mais quand on regarde d'un côté et d'autre, avant de faire quelque chose, c'est dangereux. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit de tuer l'Égyptien. Puis il l'a caché dans le sable, et il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, donc on sait la chose, comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors, qu'est-ce qui arrive? Moïse eut peur. Il n'est plus dans la paix, comme on l'a mis là. Moïse eut peur. Certainement, la chose est connue. Puis le Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse, qui avait alors 40 ans, qui sortait frais et mouli des écoles égyptiennes, s'enfuit de devant le Pharaon, et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Puis là, qu'est-ce qu'il trouve? Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et il fit boire leur troupeau. Au lieu de s'occuper de ses frères israélites, il s'est occupé de ses filles, de Jéthro. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, il se souvint de son alliance avec qui ? Abraham, Isaac et Jacob. Et vous voyez, il se souvint de son alliance avec Isaac et Abraham, avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, ça vous amène au chapitre 15 de l'Exode. Où vous avez des renseignements là-dessus. Au verset 13 du chapitre 15 de la Genèse, pardon. Genèse, chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, ce serait Israël, hein. Mais quand Dieu a dit cela, est-ce qu'Isaac était déjà né? Non, il n'était pas encore né. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Quel était ce pays? L'Égypte. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? 400 ans. Or, au temps de Moïse, les 400 ans étaient passés, se terminaient. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Est-ce que ça est arrivé? Oui. C'est arrivé au temps de Moïse. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est ce qui est dit à Abraham. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Donc, on est dans l'histoire de Moïse à la quatrième génération. C'est l'heure. Et vous savez, il y a toujours une heure fixée. On ne sait ni le jour ni l'heure, nous. Mais il y a une heure qui est fixée. Et pour l'avenir aussi. Le jour et l'heure. Mais il est dit pour nous que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce n'est pas ici que je vous dirai le jour et l'heure de son retour. Et vous n'êtes pas des imbéciles. Vous savez très bien qu'on ne peut pas savoir le jour et l'heure. Pour la bonne raison que l'heure ne sera pas la même dans le monde entier. Quand Jésus reviendra, ce sera le même moment, mais pas la même heure. Ce sera le même moment, mais pas le même jour, parce qu'il y a décalage. Alors on ne peut savoir ni le jour, ni l'heure. C'est logique, la Bible. Mais il faut l'attendre, parce qu'il y a un jour qui est fixé, il y a une heure. Et c'est extraordinaire, la précision de la Bible. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Mais mes amis, l'iniquité d'aujourd'hui, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'elle commence d'être à son comble? Est-ce que vous êtes heureux de vivre ici-bas? Vous êtes de plus en plus dans les difficultés. Alors, qu'est-ce qui devrait nous faire soupirer après le retour du Seigneur? Mais ce n'est pas les difficultés, ce serait notre amour pour lui. On voudrait être en relation avec Jésus. Mais bien souvent, quand ça va trop facilement, on n'y pense pas beaucoup à Jésus. Et on ne cherche pas à refléter sa vie, ce qu'il nous a dit. Alors on n'a pas un témoignage. Mais quand l'iniquité des Amoréens serait à son comble, alors le Seigneur interviendrait. À la quatrième génération, verset 16, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise ardente, des flammes de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, et puis il y a les sept nations qui sont mentionnées. Alors, au temps de Moïse, on est arrivé là. Moïse est donc chez son beau-père, et qu'est-ce qu'il fait? Chapitre 3 de l'Exode. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Vous rendez-vous compte ce qui a dû se passer dans le cœur de Moïse, qui était sûr que ses frères israélites, quand il est allé pour leur faire du bien, allaient comprendre que Dieu l'avait choisi. Qu'est-ce que j'annonce ici? Prenez acte. Chapitre 7. Verset 2, dans le discours d'Étienne. Ou verset 20. À cette époque, dit Étienne, naquit Moïse. Hein, alors que le Pharaon maltraitait les Israélites. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Ça colle? Oui. Et quand il eut été déposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en œuvre et en parole. Il avait 40 ans. Quand on a 40 ans, c'est pas comme 80. Lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël, il avait 40 ans, il en vit un qui outrageait, qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Et regardez le verset 25. Qu'il avait dans son cœur. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main. Hein? Quand on croit qu'on peut faire quelque chose, on ne fait rien. Ou le Seigneur nous empêche de le faire. Parce que ce n'est pas à notre gloire que nous devons travailler, c'est à sa gloire. Et c'est dans l'obéissance. Or, la foi est une obéissance. Là, c'est Moïse qui s'avançait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. Puis combien de temps il y a passé là? Vous rendez-vous compte? 40 ans. Alors, quel âge avait-il? Vous ne trouvez pas que c'est une consolation? Il avait 80 ans. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert, à la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères. » Donc, il avait eu un enseignement par sa sa mère, sinon par son père. Le Dieu de qui ? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu ne lui aurait pas parlé ainsi s'il n'avait pas eu connaissance de ses noms. Et Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Puis qu'est-ce que Dieu dit ? « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Et maintenant que Dieu ordonne, qu'est-ce que Moïse va faire ? Hein ? Vous ne trouvez pas que ça correspond drôlement à tout ce que nous pouvons ressentir ? Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qu'il était établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui apparut dans le buisson. C'est lui qui fit sortir l'Égypte. Alors, on revient à l'Exode, au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, que c'est beau, hein? Il le connaît par son nom. Et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ô tes souillés de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Je suis le Dieu de ton père, donc qui s'appelait Aram. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de ton peuple. Et verset 10, « Maintenant va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» Mais vous voyez, quand il avait 40 ans, qu'est-ce qu'il disait ? Il était sûr de lui, hein ? Et il se serait attribué le succès. Il ne pouvait pas avoir le succès. Quand on s'attribue le succès, c'est la faillite. Et Moïse a dû faire faillite. Et je crois que si vous voulez être béni, vous devez faire aussi faillite avec toutes vos prétentions. Et moi aussi. Comprenons. Si on est sûr de soi, et c'est ce qu'on nous enseigne, hein, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de lui, et non pas de soi. Pour que le Seigneur puisse vraiment nous employer, pour que toute gloire lui soit donnée. Moïse dit, verset 11, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Vous voyez qu'on rejoint le thème, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et c'est bien là qu'a été donnée la loi, à Horeb. C'est à Horeb qui lui était apparu. Et Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont, peut-être, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Vous ne trouvez pas que c'est beau ? Celui qui s'appelle Je suis. Et après Je suis, vous pouvez tout mettre. Hein. Je suis le bon berger. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau de vie. Et tout ce que le Seigneur est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà comment on lit la parole, comment on s'en nourrit. Je suis celui qui suis. Bon. Celui qui m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voyez, Dieu lui donne son message. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon mémorial de génération en génération. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel Dieu. Puis vous pouvez lire la suite au chapitre 4. Moïse répondit à Dieu. Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Puis il lui donne des signes qu'il pourra montrer aux Égyptiens, aux Israélites, pour qu'ils croient. Mais alors au verset 10, qu'est-ce que vous avez? Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Ni même depuis que je parle, que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est pas ce qu'on a vu quand il avait 40 ans. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Là, je pourrais vous raconter des choses merveilleuse sur ce verset. Va donc, je serai avec ta bouche et j'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai. Moïse dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. Voilà. Ça, c'est nos réactions humaines. Et puis, qu'est-ce que ça provoque? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et je pense que cette colère est restée dans la mémoire de Moïse. Quand il a vu l'Éternel en colère contre lui, il a pensé après, pour épargner Israël à cette colère, il demandait vraiment à Israël de ne pas enflammer la colère de Dieu, parce qu'il savait ce que c'était. Et voilà comment on peut lire l'histoire un peu de Moïse. Et vous savez que finalement, il a été celui qui a conduit Israël à travers le désert et jusqu'au pays de Canaan. Alors, qu'est-ce que Moïse nous apprend? On va terminer là. Moïse choisit. Voilà ce que c'est la foi. C'est par la foi, verset 24, que Moïse, du chapitre 11, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et dans ces versets-là, vous voyez que Moïse a résisté à la convoitise de la chair. Qu'est-ce que c'était ? Jouir pour un temps des délices du péché, c'est ce qu'il y a dans le monde, hein. Convoitise de la chair. Puis, les trésors de l'Égypte, c'est la convoitise des yeux. Puis, l'orgueil de la vie, qu'il a refusé, c'est d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Hein. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Il aurait eu un nom, hein, le fils de la fille du Pharaon. Être maltraité avec le peuple de Dieu, c'est avoir pour sa défense et pour son partage Dieu lui-même. Alors, à nous de savoir ce que nous allons choisir. Il regardait à la rémunération. Mes amis, qu'est-ce que vous avez trouvé vous-même ?